Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Nunavut entre vitalité démographique, diversité ethnique et défis linguistiques. Un texte de François Bellemare paru le 25 juillet 2023 dans Le Devoir. En juillet 1983, Le Devoir avait été, sous la plume de François Bellemare, le seul média francophone à couvrir la troisième conférence circumpolaire inuit qui se tenait à Iqaluit, dans l'actuel Nunavut. Quatre décennies plus tard, le revoilà sur place pour prendre la mesure du chemin parcouru. Premier de trois textes. Dans la capitale nunavutoise, le festival Alianet d'Iqaluit bat son plein. Avec sa programmation variée, arts visuels, théâtre, danse, cirque et surtout musique, cette 18e édition est d'abord, tout comme la troisième conférence circumpolaire inuit il y a 40 ans, une vitrine pour les régions de l'Inuit Nunangat, qu'on pourrait traduire par l'Inuitie, Groenland, Alaska et l'Arctique canadien. Mais ce qui est nouveau est sa dimension interculturelle. Aux inspirations traditionnelles mêlées d'influences musicales rock ou country s'ajoutent désormais des rythmes africains ou antillais. Incongru, plutôt reflet d'une nouvelle réalité, la diversité ethnique. En 1983, je n'avais pas croisé à Iqaluit une seule personne noire. 40 ans plus tard, la population d'origine africaine dépasse 400 personnes. Assez pour y célébrer en février dernier le mois de l'histoire des Noirs. En y ajoutant les nouveaux venus des Antilles, de l'Afrique du Nord, du Vietnam ou du Moyen-Orient, les pays du Sud élargissent la communauté francophone, jadis essentiellement d'origine québécoise. Son dynamisme m'est souligné par François Fortin, Lavallois, établi ici depuis 10 ans. Une garderie, des écoles primaires et secondaires, logées ensemble à l'école des Trois Soleils, la troupe de théâtre Oui Vite, le journal Le Nunavois, une radio, ainsi que le Franco-Centre, espace multifonctionnel de la communauté franco-nunavutoise. Diététiste venu du sud du sud. Les gens du sud s'établissant dans le nord sont de plus en plus fréquemment issus de communautés immigrantes qui se sont d'abord installées dans la grande région de Montréal et dont le chemin a ensuite pris la route de l'Arctique. C'est le cas de la diététiste Madonna Ashkar, d'origine syrienne, qui a répondu en 2017 à une offre du gouvernement du Nunavut. Établie à Iqaluit comme diététiste clinique, elle couvre également d'autres localités du territoire. Elle me dirige vers le guide alimentaire du Nunavut qui déconseille tout produit carné industriel, saucisses, pâtés, mais suggère plutôt la consommation traditionnelle de poissons et de viande de chasse. Et la communication dans la langue des patients améliore grandement le suivi clinique. Certaines ressources existent, comme le cours de base d'Inuktitut, offert par l'employeur. Mais pour aller plus loin, linguistiquement, j'ai dû ensuite suivre des cours privés. Arabophone, francophone, parlant l'espagnol, travaillant en anglais et de plus en plus en Inuktitut, la diététiste polyglotte envisage-t-elle de s'y établir en permanence avec son conjoint venu de France? Tant que nous serons contents avec des emplois motivants et des pistes de ski de fond qui se déroulent vers l'infini, on restera ici. Un territoire à la langue en recul accéléré? Lors de la conférence de 1983, beaucoup d'espoir entourait le projet de création d'un nouveau territoire au-delà de la ligne des arbres, réalisé en 1999, à même un découpage des territoires du Nord-Ouest. On l'annonçait même comme un nouveau Groenland. Et de fait, ce gouvernement territorial habité à 85% par des Inuits se distingue par plusieurs aspects. Politiquement d'abord. Élus sans affiliation partisane, les députés désignent entre eux les membres du Conseil des ministres. Toujours minoritaire, ce dernier doit mener un gouvernement de consensus avec des projets approuvés par l'ensemble du Parlement. Démographiquement ensuite, le Nunavut affiche un taux de natalité disparu depuis longtemps des sociétés post-industrielles, 2,6 enfants par femme, presque deux fois la moyenne canadienne de 1,4. En quatre décennies, le territoire a ainsi doublé sa population, la plus jeune au pays. Aucun souci de pyramide des âges vieillissantes, mais une forte pression sur le système scolaire et le parc de logements. Depuis 24 ans, la faible progression du nombre de diplômés inuits a été compensée par l'embauche de milliers de gens venus du Sud, du Québec ou du Canada anglais, mais de plus en plus des communautés immigrantes habitant les grandes villes canadiennes, ce qui renforce chaque année le statut de l'anglais, depuis longtemps lingua franca, dans le Nord. À Iqaluit, par exemple, où se forment beaucoup de couples mixtes, on constate un recul marqué de l'Inuktitut comme langue parlée à la maison, désormais par seulement 45% des foyers, et dans l'ensemble des localités du territoire, 12 à 15% des Inuits ne parlent déjà plus leur langue. Même si beaucoup de résidents d'Iqaluit venus du Sud s'en retournent après quelques années, point donc à l'horizon une inuitie de plus en plus multiraciale, générant un débat connu partout ailleurs au monde, celui de l'intégration à la société d'accueil. Interrogé par Le Devoir, le ministre nunavutois David Akigok le reconnaît d'emblée. On a mis beaucoup d'efforts pour développer les services et trop peu sur la promotion de la langue, à l'école ou en milieu de travail, sans parler de l'enseignement aux nouveaux venus, mené jusqu'ici sans résultat notable. Lors de la fondation du territoire en 1999, la promotion de l'Inuktitut était pourtant une obligation légale du gouvernement. Manque de budget, d'enseignants, de matériel didactique, ou simplement manque de volonté politique, les questions de transport ou de logement restent prioritaires. Mais au Conseil des ministres, le dossier linguistique remonte de plus en plus en haut de la pile. Et il conclut, sourire en coin, « ça nous prendrait une politique plus résolue, comme au Québec. » Assumer son identité pluriculturelle. Isabelle Chapadeau incarne bien la nouvelle génération de Nunavutois aux identités multiples. Née d'une mère inuite et d'un père québécois, la jeune femme de 25 ans a grandi à cette île, où on s'adressait à elle quelquefois en inou, langue autochtone de la Côte-Nord, avant de s'établir à Iqaluit à l'âge de 19 ans. Sa mère étant décédée lorsqu'elle avait 2 ans, elle y a néanmoins trouvé ses grands-parents maternels dans un choc culturel aux multiples facettes. Communiquer en anglais, se réapproprier peu à peu la langue de sa mère, se faire fréquemment aborder en français, et peu importe le groupe qui l'entoure, toujours porter l'étiquette de « celle qui est d'ailleurs ». De retour au Sud, Montréal puis Gatineau, elle commence à produire du contenu média sur TikTok, puis les capsules Ulumi, diffusées sur la plateforme Espace autochtone de Radio-Canada. Maintenant en couple avec un Inuit d'Iqaluit, elle a décidé, avec lui, de se ré-ré-établir dans le Nord en septembre. Avec un bébé de 2 ans, la petite famille vivra une situation multiforme. La pénurie de main-d'œuvre génère des possibilités d'emploi, mais le manque de logement y est très aigu. Même en comptant sur une famille élargie à 5 générations, l'arrière-arrière-grand-mère du bébé est décédée récemment. Le parcours d'Isabelle, fait de milliers de kilomètres aller-retour nord-sud, sera d'abord identitaire. Redevenir Inuit au Nunavut. C'était le Nunavut entre vitalité démographique, diversité ethnique et défis linguistiques. Un texte de François Bellemare, paru le 25 juillet 2023 dans Le Devoir.
La biodiversité, l'affaire de tous. Un texte de Pierre Beaulieu, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir. Tous les êtres vivants, sauf les humains, qui, eux, ont appris à déjouer la nature, ont la tâche innée de pourvoir à la perpétuation de l'espèce. Pour nourrir cette reproduction, un équilibre complexe est assuré par l'intrication de toutes les espèces dans la chaîne alimentaire. Un ensemble formant l'écosystème terrestre. Or, l'humain ne cesse de fragiliser cet équilibre par son utilisation de produits de synthèse, pesticides, plastiques, caloporteurs, pétrochimie et autres, par la destruction des habitats, par la pollution sous toutes ses formes, par la prédation à outrance de la nature, et j'en passe. On perd de cette biodiversité essentielle qui préserve notre survie. Il appartient à chacun de favoriser notre biodiversité. En particulier, il faut limiter au possible l'utilisation de pesticides, leur préférant des pièges ou des produits naturels, ou mieux, en pratiquant la tolérance. En somme, nos efforts doivent porter dans plusieurs directions. Il faut protéger et accroître les aires naturelles, réduire son empreinte carbone, choisir une alimentation durable et recycler les biens de consommation. Le secret pour y arriver, c'est de s'attaquer à un ou à quelques défis à la fois et présumer que si chacun y met du sien, on va réussir. Faire autrement, c'est perdre la pollinisation pour de grands pans de notre végétation, assister dépourvu à la désertification des océans, suffoquer sous la chaleur et devoir partager notre entourage avec une nouvelle faune beaucoup plus détestable que celle que nous connaissons. C'était « La biodiversité, l'affaire de tous ». Un texte de Pierre Beaulieu, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir.
Robert Leakey, doyen de la faculté de droit de l'Université McGill. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 30 mai 2024 dans le magazine Fugue. Robert Leakey est doyen de la faculté de droit de l'Université McGill depuis 2016. Au fil des années, l'homme aura bien garni sa feuille de route. De 2002 à 2003, Robert Leakey a été l'auxiliaire juridique du juge Michel Bastarache à la Cour suprême du Canada, pour ensuite devenir boursier de la Fondation Trudeau de 2003 à 2006. Il s'est aussi impliqué pour les LGBTQ+, non seulement par ses travaux en droit constitutionnel et en droit familial, mais aussi en assurant la présidence du McGill Equity Subcommittee on Queer People de 2008 à 2011, puis celle d'Égal Canada de 2011 à 2015. Entrevue. Comment en es-tu venu à étudier le droit et à en faire une carrière? J'ai fait un premier bac en littérature anglaise. Après cela, j'ai travaillé dans l'industrie financière. Puis, en fait, j'ai résisté longtemps à la notion de faire des études en droit. J'ai fait des joutes oratoires durant mon premier cycle, et plusieurs des gens ayant fait des joutes oratoires ont fait du droit, mais moi, je ne voulais pas les suivre. À un moment donné, puisque je travaillais avec des avocats dans le secteur financier, je voyais leur travail, je lisais leurs documents, je voyais leur façon de raisonner, et je me disais, « Ça m'intéresse. Je peux faire ça. » Est-ce que ton désir de faire du droit a été incité par une envie de défendre les droits des LGBTQ+? Je ne dirais pas que mes premiers intérêts pour le droit étaient militants. Je me disais que c'était quelque chose qui me plairait. Dès que j'ai été dans ce domaine-là, je suis devenu de plus en plus conscient des enjeux pour nos communautés. Pour moi, c'était important de faire ce que je pouvais. De nos jours, c'est sûr qu'il y a plusieurs profs de droit qui sont issus de la communauté LGBTQ+, mais pas tant que ça. Et donc, ça reste pour moi une possibilité privilégiée de faire avancer les choses. Je pense que, comme universitaire, on a parfois un peu plus de loisirs pour faire des choses que les gens qui travaillent des heures folles dans un grand cabinet. Je pense à ça aussi. J'ai présidé, par exemple, le comité des questions juridiques d'Égal Canada pendant 5 ans. Et c'est quelque chose qui était facile à ajouter à la vie universitaire. Ça aurait été plus difficile pour quelqu'un qui bosse très très dur dans un grand cabinet. Le travail universitaire est composé de l'enseignement, de la recherche et des autres contributions, et donc ça peut faire en quelque sorte partie du boulot. Dans une lettre ouverte parue en 2018 dans le Globe and Mail, tu expliques le fait que l'égalité du mariage n'a pas résolu toutes les questions juridiques pour nos communautés LGBTQ. Tu y parles notamment de la vulnérabilité juridique des familles LGBTQ+, de la violence et de la discrimination à l'encontre des personnes trans et de la criminalisation de l'exposition au VIH. 6 ans plus tard, penses-tu que ces problèmes sont encore d'actualité? Il y a eu des améliorations, je crois, concernant la reconnaissance des familles et des parents LGBTQ+, quoi qu'il reste des enjeux. Il y a des litiges en cours au Québec afin de reconnaître un troisième parent. Ailleurs, il y a plus de possibilités d'établir un lien de filiation avec un troisième parent, parce que plusieurs familles sont ainsi composées, mais au Québec, on résiste à cet effort-là. Du côté de la criminalisation des personnes qui ont des rapports sexuels alors qu'ils sont séropositifs, je pense que ça continue à être un problème. Et pour les trans, les choses se sont empirées. Il y a eu certains gains, mais certains reculs, et maintenant on vit vraiment un ressac. Plusieurs provinces ont annoncé ou entrepris des mesures qui réduisent les droits des personnes trans, et surtout des jeunes. C'est inquiétant. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que le progrès allait être inégal, mais là, carrément, il faut défendre des gains contre des mouvements populistes qui voudraient les retrancher. D'un point de vue légal et juridique, es-tu optimiste pour les LGBTQ+? Pour le long terme, j'ai confiance que les choses iront dans la bonne direction. Mais on doit rester très vigilant et on doit défendre certaines choses que l'on pensait acquises. Je ne suis pas totalement pessimiste, mais il faut être réaliste. Les gouvernements populistes ont sélectionné comme cible les populations trans. Pour moi, c'est très, très important que les gens qui ont profité des développements positifs du passé, les couples gays ou lesbiens qui voulaient se marier, ne disent pas « J'ai tout ce dont j'ai besoin, ce n'est plus ma lutte. » Parce que, même à l'époque, quand les gens luttaient pour le mariage homosexuel, des personnes trans ou des personnes touchées plus par la criminalisation des actes sexuels disaient « On a nous aussi des enjeux. » On leur a dit « Attendez, on s'occupe du mariage d'abord et après on revient à vos affaires. » Il y a des promesses qu'ils doivent être tenus envers ces gens-là. Et donc, quels enjeux LGBTQ+ sont les plus pressants au niveau légal juridique? Est-ce ceux concernant les personnes trans? Les besoins juridiques de la communauté trans sont plus complexes. Ça mélange des choses juridiques et sociales et scientifiques. Je dis que les questions trans sont plus compliquées parce que, par exemple, le mariage homosexuel était une question de compétence fédérale et donc, en 2005, ça a été modifié dans tout le pays par l'adoption d'une seule loi. Les enjeux pour les personnes trans, souvent, impliquent beaucoup plus de compétences provinciales, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, des permis de conduire, et donc, il faut faire le combat dans chaque province. Il y a beaucoup de décideurs qu'il faut convaincre. Tu reconduis un second mandat à titre de doyen à la faculté de droit de l'Université McGill depuis 2021, et tu ne pourras pas reconduire de troisième mandat. Que te réserve donc l'avenir d'un point de vue professionnel? Je suis très fier d'être un prof dans cette faculté. Après mon mandat comme doyen, j'aurai droit à un congé sabbatique qui a été reporté de nombreuses années pendant mon mandat comme doyen. Je ne vais jamais cesser d'enseigner. J'enseigne tous les ans, même comme doyen. Quand je vais revenir, je vais évidemment avoir plus de temps en classe, plus de temps à consacrer à mes recherches. C'était Robert Leakey, doyen de la faculté de droit de l'Université McGill, une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 30 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Concours de critique littéraire du Prix des Horizons Imaginaires. Un texte de Renaud Lefebvre, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Le Prix des Horizons Imaginaires, dont le jury est constitué d'étudiants du réseau collégial, a couronné Éric C. Plamondon pour « Bizarrerie du banal, sémaphore », devant « Éveil à Kitschik, la saignée des possibles », Louis-Carl Picard-Sioui, « Anénorak », et « Le fil du vivant, Elsa Pépin, Alto ». En marge de ce prix qui honore une œuvre issue des littératures de l'imaginaire, a été mis sur pied un concours de critique littéraire. Cette année, c'est Renaud Lefebvre, du Cégep de la Naudière, qui remporte les honneurs avec une critique sur « Éveil à Kitschik », dont voici le texte. « Kitschik, tout un village à découvrir » par Renaud Lefebvre, du Cégep de la Naudière, l'Assomption. Qu'est-ce qui définit un village? Pour moi, c'est son emplacement géographique. Pour d'autres, c'est son architecture. Pour vous qui lisez cette critique littéraire, c'est peut-être sa culture. Mais pour Louis-Carl Picard-Sioui, ce sont les individus qui y résident. Dans son roman fantastique « Éveil à Kitschik, la saignée des possibles », l'auteur de nationalité Huron Wendat a rédigé un récit mettant en scène de nombreux personnages aux couleurs variées, souvent attachants et parfois assez loufoque. C'est d'ailleurs l'un des principaux points forts de cette œuvre. Chaque habitant possède une personnalité intéressante, distincte et complète, peu importe son importance pour le déroulement de l'intrigue. Le caractère de chacun va même jusqu'à se refléter dans le style de la narration. Ainsi, lors d'un chapitre suivant les actions du vulgaire Pierre Wabouche, le narrateur emploie un niveau de langage populaire, tandis que s'il met le distrait Jean-Paul, Paul, Jean-Pierre de l'avant, il utilise des phrases qui semblent ne jamais se terminer. Toutefois, la richesse des caractères et le nombre élevé de personnages peuvent rendre difficile la compréhension des multiples relations reliant les protagonistes. Heureusement, au fil des pages, je me suis attachée à ces habitants hétéroclites et il m'a ensuite été beaucoup plus aisé de comprendre les interactions complexes présentes dans la communauté. Un humour qui a atteint sa cible. Louis-Carl Picard-Sioui vise dans le mille avec son humour cru, cinglant et absurde qui, pour certains, frôle l'immaturité. Pour ma part, j'ai plutôt trouvé que c'était hilarant qu'un drôle d'énergumène vienne interrompre un pow-wow pour ouvrir un portail interdimensionnel avec un dildo cosmique. J'ai également trouvé assez cocasse le chapitre du cambriolage au gaz-bar. Le ton dramatique des combats est rompu à quelques reprises par les surnoms que Lydia a donnés aux malfrats selon les masques qu'ils portent. Ainsi, elle se bat contre un poisson, un clown et une cagoule. Cela donne naissance à des passages comme « citation ». Alerté par son acolyte, le poisson accourt vers moi, m'attrape le bras, puis saisit le combiné de l'autre main. Fin de citation. Qui m'ont fait éclater de rire en plein milieu de la bibliothèque silencieuse du cégep, tellement la situation me semblait absurde. L'absurdité est d'ailleurs très bien maîtrisée par Louis-Carl Picard-Sioui. Certaines scènes, prises individuellement, peuvent paraître n'avoir aucun sens, mais considérées dans l'ensemble de l'œuvre, retrouvent toute leur signification. C'est notamment le cas de la scène où Saint-Ours et Wabush observent la cosmogonie de plusieurs univers. Les deux personnages intoxiqués se retrouvent à faire du « hula-hoop cosmique » entre des bulles univers et affrontent une mante religieuse géante. En ce moment, si vous n'avez pas lu le roman, vous vous dites sûrement que ce sont des hallucinations causées par la drogue de Saint-Ours et vous n'auriez pas complètement tort. Pourtant, au cours de ma lecture, cette scène m'a semblé essentielle et pleine de sens. Une infinité de découvertes. Avant de débuter la lecture d'Éveil à Kitchik, j'étais très peu informée au sujet des Premières Nations du sud de la province. Mes connaissances provenaient surtout de mes cours d'histoire et des informations que l'on voit passer dans les médias. Ainsi, je savais que les Iroquois étaient sédentaires et vivaient dans des maisons longues, tandis que les Algonquiens étaient nomades et habitaient dans des wigwams. J'étais aussi bien évidemment informée de la controverse concernant les pensionnats autochtones, mais c'était tout. Cela m'a inconsciemment amenée à avoir une incompréhension générale de la réalité des Premières Nations. Par exemple, je considérais les peuples autochtones comme un ensemble où chaque individu avait la même opinion. Toutefois, en lisant « Éveil à Kitchik », j'ai compris qu'il y avait autant de points de vue différents sur un sujet qu'il y a de personnes pour y réfléchir. Ce qui crée la richesse de ce roman, c'est justement la quantité et la qualité de ses personnages. J'ai donc eu la chance de découvrir des opinions variées sur plusieurs sujets, comme les powwows et la vie sur une réserve. C'est grâce à cet élément que l'on remarque le talent de l'auteur qui a réussi à changer mes conceptions initiales erronées sans jamais utiliser un ton moralisateur. Un univers presque réel. Pour finir, je dirais qu'Éveil à Kitchik, la saignée des possibles, est un récit fantastique regorgeant de détails témoignant de la réalité des réserves autochtones. On ressent que tous les lieux, tous les personnages et toutes les actions présentes dans le roman sont inspirés d'éléments réels. Cela amène une véritable profondeur à l'intrigue de savoir que tout ce que l'on y trouve existe pour vrai. Ce qui est également vrai, c'est que je vous recommande fortement de faire comme moi et de plonger dans l'univers extravagant de Kitchik. La Fondation Lire pour réussir, coordonnatrice du prix, remercie Druide et Antidote, la revue Les Libraires, le Salon du Livre de Montréal, la revue Brin d'éternité et la revue Solaris. C'était « Concours de critique littéraire du prix des horizons imaginaires », un texte de Renaud Lefebvre, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.